Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre. Blessure, un récit de François-Xavier Pertus aux éditions L'Harmattan dans la collection Rue des Écoles. Dans la collection Rue des Écoles, il y a d'autres livres, mais nous lisons celui-ci. Pour présenter l'auteur, je vais donc lire une partie de la quatrième de couverture. Blessure est un livre poignant, fruit d'une longue élaboration, témoignage d'un jeune enfant esselé, endeuillé dans sa fratrie. Témoignage de l'adulte qu'il est devenu, réussissant à faire cohabiter une vie pleine et un deuil infaisable. Concernant François-Xavier Pertus, il a exercé la kinésithérapie à titre libéral, notamment dans le domaine du sport. DU de kinésithérapie du sport à Grenoble, DE professeur de karaté, vice-main d'or de la kinésithérapie, catégorie sport Paris, auteur du livre « Entraînement karaté, 8 points clés ». Pour mieux cerner ce qu'il vivait depuis l'absence de sa petite sœur et de son petit frère décédé, il s'oriente vers des formations universitaires. AEU, le deuil et les soignants, Paris 13, AEU de kinésithérapie respiratoire néonatale, Paris 1, DU de psychologie médicale, Lyon 1, DU deuil et travail de deuil, Paris 11, et une formation avec Isabelle Filioza sur les intelligences émotionnelles et relationnelles qui le conduiront dans un premier temps à l'écriture du livre « Des âmes vives », coup de cœur du CNDR Vigipalia. Et le livre que nous lisons est une suite. Blessure. À ma petite sœur chérie, à mon petit frère éphémère. Préface. Deuil secret et résilience. Un essai sur le silence. Par Bernard Goltz. Bernard Goltz, pédopsychiatre psychanalyste, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker Enfants Malades, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université René Descartes, président de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est un honneur pour moi que d'avoir été sollicité par François-Xavier Pertus pour rédiger la préface de son beau texte intitulé « Blessure » qui fait suite au précédent dont le titre était « Des âmes vives ». Un honneur émouvant, car la problématique de la perte d'un frère ou d'une sœur me touche personnellement et parce que je trouve que François-Xavier Pertus l'aborde avec une pudeur, une profondeur et une délicatesse de la pensée tout à fait remarquables. À juste distance, sans banalisation ni exhibitionnisme, ce qui est difficile à partir du moment où l'on se donne à voir dans un écrit destiné à être publié. Ce qui me touche infiniment, c'est la permanence de la mort tout au long de ce texte qui vaut en fait comme un hymne à la vie, et ceci sans paradoxe aucun. La vocation soignante de l'auteur s'enracine, comme souvent, dans l'attention qu'il a dû porter très tôt au fonctionnement psychique de sa mère. Mais cette vocation soignante s'exprime aujourd'hui dans cette idée de François-Xavier Pertus qu'il y a une urgente nécessité à pouvoir offrir aujourd'hui aux enfants endeuillés une écoute et un accompagnement de qualité. Ce à quoi je ne peux que pleinement souscrire en tant que pédopsychiatre exerçant depuis maintenant longtemps. Si tout deuil, même normal, peut faire souffrir le sujet, tout à la fois au niveau de ses enveloppes psychiques, sentiment d'être décontenancé, au sens fort du terme, au niveau des liens binaires symbiotiques, le vécu d'arrachement, et au niveau enfin de ces relations triangulaires, classique perte d'objet, il n'en demeure pas moins que la perte d'un frère ou d'une sœur représente pour tout enfant un deuil dit narcissique dans la mesure où un frère et une sœur, quelle que soit l'ambivalence dont ils puissent être investis, sont des objets pas comme les autres, c'est-à-dire des objets qui sont vécus comme des petites pertes de partie de soi. Dès lors, ces deuils dits narcissiques se trouvent davantage centrés par la honte que par la culpabilité, et la honte, on le sait, est une indéniable source de souffrance. Un mot maintenant du titre « blessure » au pluriel. En effet, François-Xavier Pertuis nous raconte plusieurs traumatismes successifs. Le deuil infaisable d'une petite sœur morte, Christine, quand il avait 2 ans. La mort d'un petit frère, Philippe, âgé de 2 jours à la maternité. La mort d'un père lointain, enfin, et l'énigme de la vie de celui-ci avant son mariage avec la mère de l'auteur. On pourrait parler ici de traumatisme cumulatif, selon les termes désormais célèbres de Massoud Khan. Une note, le concept de traumatisme cumulatif dans Le soi riche de Massoud Khan aux éditions Gallimard. On pourrait parler ici de traumatisme cumulatif selon les termes désormais célèbres de Massoud Khan, mais ce qui fait traumatisme, au-delà des événements eux-mêmes, c'est la dimension de secret qui les entoure ici intensément. Le secret rend immanquablement les choses encore plus lourdes à vivre qu'elles ne le sont par elles-mêmes, car l'enfant fantasme, consciemment ou inconsciemment, que ce dont on ne parle pas doit être littéralement monstrueux. Face au double deuil vécu par l'auteur, le thème de la tombe révèle alors toute son importance. La tombe psychique que l'endeuillé offre au disparu par son travail de vestal, être celui qui maintient le mort en vie par le fait d'y penser et d'être parfois le seul qui peut encore y penser, mais aussi la tombe concrète de l'inhumation où la dispersion des cendres, cendres réelles ou symboliques, permettant de penser l'absent ou les absents. Pour autant, la question principale est sans doute celle de la parole. Comment parler aux enfants de ce qui les concerne au plus près? Comment ne pas les laisser dans le vide de représentation? Comment entendre leurs questionnements? Comment être là avec eux, tout simplement, quand soi-même on se trouve confronté au malheur et à la perte? C'est cette fonction parentale qui se trouve interrogée en creux, comme en négatif, tout au long de cette réflexion, qui est celle d'un enfant atteint par un double deuil et confronté au mystère de l'existence. Ginette Rimbaud a exploré ce champ d'interrogation à propos de l'enfant malade et lui-même menacé de mort. Un travail mené à l'hôpital Necker Enfant Malade, où j'exerce moi-même actuellement. Mais François-Xavier Pertuis nous montre ici que cette réflexion vaut également pour les enfants confrontés à la maladie ou à la mort des autres et de leurs proches. Le silence des adultes anticipe sur le silence de la mort, disait en substance Ginette Rimbaud. L'important est donc d'être là pour échanger des mots ou partager des émotions. Et c'est en cela que ce texte m'apparaît finalement comme un essai sur le silence. Privé de cet échange et de ce partage, on voit comment peu à peu François-Xavier Pertuis va tout de même parvenir, difficultueusement, à dépasser ses obstacles développementaux et à pouvoir vivre enfin, soit vivre en se libérant de ses entraves intérieures. S'il le doit à l'amour de ses parents dont il pense qu'il est à la source de sa résilience, personnellement, je pense que cette résilience lui vient précisément de tout ce parcours de vie en quelque sorte initiatique, de cette souffrance à fonction ordonnalique. Et si la résilience n'est pas seulement survie, mais valeur ajoutée, alors elle se traduit, me semble-t-il, par la manière dont François-Xavier Pertuis fait face à ses propres problèmes de santé. Et surtout, dans cette justesse émotionnelle et cette authentique sensibilité aux faits humains qui imprègnent l'ensemble de cet écrit, décidément fort précieux. Merci à François-Xavier Pertuis de ne pas être resté seul avec ses affects et de réussir à nous faire partager ses émotions. C'est là une manière d'être ensemble. Le deuil fait partie de la vie. Le deuil impossible fait courir le risque d'une entrave à la vie. Et c'est pourquoi elle, et elle seule, la vie, avec tout ce qu'elle porte en elle de parole et de communication, peut parfois dénouer cette entrave. Je connaissais Christine parce qu'il y avait la photo d'un bébé dans un tout petit cadre doré sur la table de la chambre de mes parents. J'avais sûrement demandé qui était le bébé de la photo et maman avait dû me répondre avec évidence « C'est Christine, ta petite sœur. » Quand je passais devant la photo, je lui faisais un baiser léger, comme pour ne pas la réveiller, un effleurement sur le sous-vert d'un petit cadre. C'était un baiser furtif aussi. Moi, je savais que j'embrassais ma petite sœur, mais je ne voulais pas être surpris en train d'embrasser sa photo. Je connaissais aussi Christine parce que chaque soir, nous faisions une prière qui se terminait toujours par « Christine et Philippe, veillez sur nous !» avant d'aller nous coucher et d'échanger les bises pour une bonne nuit. Je ne trouvais pas très normal que ce soit ma petite sœur et mon petit frère qui veillent sur moi, l'aîné, quand bien même maman nous avait très naturellement expliqué qu'ils étaient nos anges gardiens et qu'ils nous protégeaient. De quoi d'ailleurs, je ne savais pas trop. Moi, je voulais bien y croire, mais je ne comprenais pas tout. Entre les anges gardiens dans le ciel près de Jésus, Christine dans le petit cadre et Philippe que je n'avais jamais vu. Quand je rêvais dans la journée et je me demandais pourquoi Christine n'était pas restée avec nous et comment elle avait fait pour aller au ciel seule, toute seule et si loin, et pourquoi toute ma vie elle serait loin de moi. Pour Philippe, c'était différent. Je n'arrivais pas à me l'imaginer, ce petit frère. Moi, j'aimais bien l'idée du ciel avec le vent, les oiseaux, les nuages, les cerfs-volants, mais l'imaginer avec des ailes dans le dos parce qu'il paraît que tous les anges gardiens avaient des ailes dans le dos. Moi, je n'y arrivais pas. Et puis, est-ce qu'un jour on monterait pour la retrouver? Et après tout, là-haut, c'était où? Je me sentais très seule sans cette petite sœur à laquelle je ne pouvais pas parler parce que je ne savais pas trop où elle était. Et puis, m'aurait-elle entendue? Et comment aurais-je su si elle m'avait écoutée? Et est-ce qu'elle m'aurait répondu? C'était un peu vertigineux. Cette petite sœur qui mobilisait tout mon esprit, on n'en parlait qu'à la prière. Papa n'avait jamais parlé d'elle, ni prononcé une seule fois son nom. Mes grands-parents n'avaient jamais évoqué son existence. C'était comme si elle était oubliée, abandonnée. Et cela a été contagieux. Un jeudi en fin de matinée, on a sonné. Maman est allée ouvrir à deux religieuses, coiffées de grandes cornettes blanches, en les appelant « mes sœurs ». J'ai été très surpris. Et j'ai cru l'espace d'un instant que la famille s'agrandissait. Après leur départ, maman nous a expliqué que ses sœurs collectaient des vêtements pour des orphelins et des enfants abandonnés. J'ai aussitôt voulu savoir si je n'étais pas un enfant abandonné. Je n'ai pas osé le demander. De toute façon, j'avais tellement l'impression d'étouffer avec cette idée effrayante que je n'aurais pas pu prononcer un mot. Aussi, dès que j'ai pu, je suis allée fouiller dans le meuble de la salle à manger là où mes parents rangeaient les papiers. J'ai trouvé un carnet sur lequel était écrit « Livret de famille ». J'ai tourné les pages rapidement et j'ai lu les prénoms. Nous étions tous mentionnés. J'étais le premier, suivi de Christine, de mon jeune frère et de Philippe. Soulagée de savoir que je n'avais pas été abandonnée, j'ai tout remis bien au fond du tiroir. J'étais définitivement rassurée. Cette idée ne m'est jamais revenue. Je n'ai jamais parlé de cet épisode avec mon jeune frère, ni alors, il me semblait trop petit, ni plus tard. Nous étions donc une famille de 6 personnes. Il y avait 4 enfants, mais en fait, on n'était que 2. Et avec maman, on passait à 3. 3 au lieu de 6. Je trouvais cela triste. Papa, on ne le voyait que très peu, à cause de son travail de nuit ou des saisons qu'il faisait dans de grands restaurants sur la côte. Il était presque toujours absent pour les fêtes, les anniversaires, les Noëls et les grandes vacances. C'était comme ça dans son métier. Toujours est-il que Christine me manquait. Nous étions séparés, cela me rendait très triste. Et je ne pouvais pas le dire. Je n'avais que la compagnie de son absence. Elle devait sûrement manquer à maman, qui semblait avoir de la peine et qui ne souriait pas souvent. J'ai senti très tôt que l'on me cachait quelque chose, ou du moins que l'on ne pouvait pas tout me dire sur Philippe. Mais je pensais que tout ce que je ne savais pas maintenant, je le saurais quand je serais grand. En fait, il n'y avait pas vraiment de mystère pour moi. Et puis, à partir du jour où maman nous a laissé faire notre prière tout seul, petit à petit, j'oubliais Philippe. Le petit visage de Christine avait pris toute la place dans mon cœur. Je n'ai jamais entendu dire de Christine et Philippe qu'ils étaient morts, mais je savais bien que ça ne pouvait être que ça. En décembre, il fallait faire le sapin de Noël. Et le sapin, c'était bien. Il fallait aller le choisir, il fallait le porter. Ça piquait les doigts et ça sentait bon. La décoration, c'était amusant, avec les guirlandes que l'on installait tout autour et les boules de toutes les couleurs dont je vérifiais la solidité en laissant tomber, de pas trop haut, celles que je trouvais les moins jolies. Quand tout était installé, on regardait inlassablement les guirlandes lumineuses qui clignotaient et donnaient vraiment un air de fête à notre chambre. Quant à la crèche, elle avait également sa place attitrée dans notre chambre sur le côté de la cheminée. Et l'on ressortait délicatement du carton de Noël les santons de Provence, tous enveloppés séparément dans de vieilles feuilles de papier journal dont je n'aimais pas le contact, avant de mettre en scène toutes ces figurines que je ne trouvais ni très belles ni agréables à toucher. Maman n'avait pas manqué de nous raconter l'histoire de chacune d'elles. La Vierge Marie dans son manteau bleu à genoux, sereine, Saint-Joseph vêtu de brun fatigué en appui sur son bâton, les bergers, les premiers avertis de la nativité par l'ange Gabriel. Les rois mages, des rois étrangers, guidés par une étoile venue honorer Jésus. tous trois richement vêtus, avec des noms que je n'arrivais pas à retenir. Sans oublier l'âne et le bœuf qui réchaufferaient le nouveau-né de leur souffle. Tous ces personnages rassemblés autour du très modeste petit lit de paille qui recevrait le santon de l'enfant Jésus le soir du 24 décembre et pas avant. En attendant, ce petit santon restait bien enveloppé dans une petite boîte. Moi, cela me faisait penser à un bébé mort. Je pensais à Christine, qui avait été un bébé vivant avant de devenir un bébé mort. Et j'étais envahie de tristesse. Cette boîte avec ce santon-là, je l'aurais jetée et toute la crèche avec. De chaque côté de la cheminée, il y avait deux petits anges en métal qui tenaient chacun une petite bougie que l'on allumait. Ces anges, je les aimais bien avec leur sourire et leur aube rouge vif. Une année, je les avais approchés centimètre par centimètre du papier rocher jusqu'à ce que cela noircisse, brûle et prenne feu. Et je n'ai pas été déçue parce que c'est allé très vite et les flammes ont pris une de ses hauteurs. Mon jeune frère est allé chercher maman qui est venue en courant avec un torchon. Là, ça a été du grand spectacle, avec les santons qui giclaient dans tous les sens. Maman s'était montrée très efficace. Il y avait eu un maximum de casses et, accessoirement, des flammes qui ne s'étaient pas propagées au rideau de la fenêtre. Tout a été racheté dès le lendemain. Les anges avaient disparu, remisés dans le carton. Si seulement on m'avait annoncé que ma petite sœur allait revenir, là, j'en aurais rajouté des bougies, de toutes les tailles et de toutes leurs couleurs, et j'aurais fait une grande crèche qui aurait pris toute la largeur de la cheminée. La crèche de la maison ne suffisait pas. Il fallait visiter la crèche de la paroisse à Saint-Pierre-de-Montrouge. Il est arrivé que la crèche soit vivante, avec de vrais personnages en costume d'époque. Un âne sorti de je ne sais où, et comme enfant Jésus, un gros poupard que je trouvais vraiment gris. Parents, enfants, tous avaient l'air d'y croire. Tout cela me dépassait. Ce nouveau-né tout rigide me donnait un gros cafard. Un nouveau-né, j'avais l'idée que c'était rose et que ça gigotait. Là, pour moi, il était mort. Et j'étais très mal à l'aise. Pour terminer la trilogie des crèches, les crèches des grands magasins, avec les rangées d'enfants qui se pressaient pour se rapprocher des vitrines et s'émerveiller. Moi, ça me faisait de la peine, ces crèches. Et quand la foule des enfants poussait, cela m'arrangeait parce que j'allais sortir encore plus vite de cette cohue. Je ne disais rien. Maman ne devinait rien. Et tant mieux parce qu'elle faisait tout pour que l'on ait le meilleur Noël possible, sans se rendre compte que sa tristesse se voyait. Les soirées de Noël ne se passaient jamais avec papa. Maman achetait une petite bûche, la soirée était très courte. Moi, j'aurais aimé Christine à côté de moi, rien que pour moi. Et on se serait raconté des histoires, on aurait ri de tout et n'importe quoi, et nos rires auraient rempli la maison de joie. Quelquefois, les veillées se déroulaient chez mes grands-parents. Je trouvais l'ambiance vraiment peu chaleureuse, et de surcroît, il fallait tenir sans s'endormir en suivant le très ennuyeux programme de l'unique chaîne de télévision jusqu'à la messe de minuit, à Notre-Dame-des-Champs et faire, à la fin de l'interminable office, le détour par la crèche. Quant au Père Noël, je ne me rappelle pas y avoir cru un seul instant. Il y avait vraiment trop d'invraisemblances dans cette histoire. D'ailleurs, à la maison, on ne parlait que des cadeaux de Noël. Le Père Noël, sa luge et son convoi, cela ne passait pas. Noël, c'était le sapin, décoré, coloré et lumineux. Tout le reste, je m'en serais dispensée, que ce soit la crèche ou des cadeaux. La crèche, c'était triste, et les cadeaux me laissaient indifférent. Il s'agissait souvent de jeux, et je ne jouais pas, ou de livres, et je ne lisais pas. De toute façon, je ne savais pas ce qui m'aurait fait plaisir, si ce n'est que l'on soit tous ensemble ce jour-là, ce qui ne se ferait jamais. Et ça, pour moi, c'était pire que tout. Je peux remonter mes souvenirs d'enfant jusqu'à l'école de la rue du Moulin Vert, en CE1. J'aimais bien le nom de la rue, mais je n'aimais pas aller dans cette école où je ne connaissais personne, dans laquelle je n'avais pas d'amis et dans laquelle on ne chantait que des chants religieux, que ce soit en début de matinée, en fin de matinée, en début et en fin d'après-midi, bref, en toute occasion. Moi, je faisais semblant de chanter, parce que j'avais honte de chanter. On ne chante pas quand on est triste. Je n'avais jamais chanté auparavant. Parfois, quand même, je voulais montrer que les paroles, je les connaissais. Alors, je la poussais un peu fort, la chansonnette, comme je pouvais. Mais cela ne plaisait pas à la maîtresse, qui s'autorisait des aigus vertigineux, surtout l'été, quand les fenêtres étaient ouvertes, comme pour défier les autres classes. Quant à la récréation, j'entendais parler de puzzles, de mille pièces, de mécanos à monter, de circuits de trains électriques, de collections de voitures miniatures, de parties de Monopoly. Je ne comprenais pas quel pouvait bien être l'intérêt de ces jeux. Essayer d'emboîter des petits morceaux de contreplaqué les uns dans les autres en se cassant la tête et quand tout est fini, tout défaire pour tout refaire. Construire des trucs avec des pièces de métal et les assembler en tournant un petit écrou avec une petite clé sur une petite vis. Regarder une locomotive électrique tourner indéfiniment en rond ou en huit, hormis quelques arrêts pour prendre des voyageurs. Comment pouvait-il s'imaginer pilote de rallye automobile en poussant une Dinky Toy ou propriétaire d'immeubles achetés à coups de dés avec des billets de pacotille? J'avais vraiment l'impression qu'on n'avait pas le même âge. Je ne jouais avec personne, parce que si c'était pour jouer, comme des petits à cache-cache derrière les arbres de la cour de récréation, aux billes pour convoiter les calots œil de chat, aux osselets pour réussir retourner tes balayettes, à la palette pour faire chapeau, ou encore à 1, 2, 3 soleils pour aller toucher un mur. Non, merci, pas envie. Quant aux gendarmes et aux voleurs, je me demandais qui avait bien pu inventer un jeu aussi stupide. Je regardais mes copains qui faisaient semblant de se tuer ou semblant d'être morts, comme ça, devant tout le monde. J'avais honte pour eux. Le décalage avec ce que je vivais était trop grand. Moi, ma petite sœur, elle n'avait pas pu dire « pousse ». Elle était morte, et c'était pour de vrai. J'ai changé d'école. Cela n'a rien changé. C'était un naufrage. Je passais mon temps à attendre. Un jour d'automne, maman nous a annoncé qu'on allait au cimetière sur la tombe de Christine. J'étais un peu surpris. C'était la première fois que j'entendais parler de la tombe de Christine. Je ne savais pas qu'elle avait une tombe et je n'étais jamais entrée dans un cimetière. Du 14e arrondissement où nous habitions jusqu'à Saint-Maur-des-Fossés où nous avions habité, il y avait un trajet en voiture au cours duquel nous nous étions mis à chahuter, mon jeune frère et moi. D'habitude, cela ne durait guère, en tout cas jamais au-delà de l'invitation de papa à nous calmer, là. Là, il ne disait rien. Au bout d'un moment, maman nous a rappelé que, quand même, on allait au cimetière. Autrement dit, il était déplacé de chahuter. Sans doute, quelque chose nous échappait. Alors, on n'a plus rien dit jusqu'à l'arrivée. Papa s'est garé dans une petite rue montante, au bout de laquelle on voyait un mur très haut. Le cimetière, c'était derrière. Nous marchions en donnant des coups de pied dans tous les monceaux de feuilles mortes. Nos parents, derrière nous, se tenaient par le bras. En haut de la rue, il n'y avait que des magasins de fleurs. J'ai remarqué que le fleuriste installé devant chez nous à Paris ne vendait pas ces fleurs-là. Ici, en plus, il se vendait toutes sortes de petites plaques en marbre noir ornées de colombes et de petits bouquets. Nous avons choisi un pot avec des grosses boules blanches et j'ai appris le mot « chrysanthème ». Après le passage de la porte principale du cimetière, j'ai eu tout de suite l'impression de rentrer dans un autre monde. Les gens parlaient doucement, c'était calme, il n'y avait que des tombes et je trouvais que cela faisait vraiment beaucoup de morts. Où étaient les seuls enfants ? Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que mes parents s'étaient égarés. Ils ont demandé où était le carré des enfants. Je pensais que c'était un petit square, comme une garderie où les parents pouvaient laisser jouer les enfants. J'ai vu une telle tristesse sur le visage de mes parents que j'ai compris que cela signifiait autre chose que ce que je pensais. Et puis, ils se sont arrêtés. Ils sont restés un petit moment sans rien dire, en se tenant toujours par le bras. Maman a dit « C'est la tombe de Christine ?» Je peux dire que, dans un premier temps, je n'ai rien compris à ce que l'on me disait. Si c'était la tombe de Christine, Christine était donc là-dessous. Et c'était impossible. Cette tombe, je la détestais d'emblée. Ces graviers peints en blanc, je les trouvais ridicules. Et puis l'ange plus tout à fait blanc, en chemise de nuit, au-dessus de la stèle, avec ses ailes dans le dos, s'il avait pu s'envoler celui-là, avec tous ceux des tombes d'à côté. Et puis, cette grande plaque sur laquelle j'ai lu mon nom de famille, je ne m'y attendais vraiment pas. Je n'avais jamais vu écrit mon nom en aussi grosses lettres, et il fallait que ce soit dans un cimetière. J'ai été très gênée à l'idée que n'importe qui puisse savoir qu'il y avait quelqu'un de ma famille ici. Au-dessus de mon nom, il y avait écrit « Christine » en plus petit. J'étais très troublée parce qu'être sous la terre ou être au ciel, cela n'avait vraiment rien à voir. J'aurais préféré qu'elle ne soit qu'au ciel. Sous le prénom, il y avait deux dates. J'ai fait la soustraction. Je pensais que je m'étais trompée. De toute façon, ces dates-là, jamais je ne m'en souviendrai. Elle était donc là-dessous, juste là-dessous, ma petite sœur, dans la terre, dans le noir, dans le froid, toute seule et pour toujours. Mais c'était affreux. Brutalement, je me suis sentie serrée de partout. J'ai eu l'impression d'étouffer. Je ne pouvais même pas crier. Tout s'est bloqué. Cela n'a pas duré et personne n'a rien vu. Et mon cœur s'est cassé. Mais je n'ai pas pleuré, parce que si cela ne s'était pas arrêté, j'aurais été très embêtée. Comme mes parents avaient tellement de peine, je n'avais pas du tout envie de leur imposer la mienne. Je me suis sentie vraiment seule. J'ai pensé que je pouvais tendre mes bras vers la tombe et dire « Christine, viens, on s'en va !» Je n'ai pas osé. J'ai eu honte. J'ai regardé le ciel et j'ai demandé à Dieu de nous sortir de ce lieu détestable pour partir vers la lumière et le vent, très loin. En vain. Mon jeune frère à côté de moi semblait absent. Je n'ai jamais su s'il se souvenait de ce moment. J'ai vu maman pleurer, silencieusement, les yeux fixés sur la plaque. Je ne l'avais jamais vue pleurer. J'étais bouleversée. Mon père aussi était bouleversé, mais il ne pleurait pas. il cachait son malaise en arrachant quelques brins d'herbe qui avaient réussi à pousser entre les graviers blancs. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait que de l'herbe. Ça aurait au moins eu l'air d'une tombe. J'étais tellement malheureux de voir mes parents avec un si lourd chagrin que je décidai que jamais ils ne pleureraient à cause de moi, que dorénavant, je m'effacerai. Je ferai comme si je n'étais pas là, je ne demanderai jamais rien, je grandirai et vite. On est parti, sans doute après avoir récité une prière. Ce carré des enfants morts, c'était une horreur. Dès que nous sommes sortis de ce morne lieu, j'ai pris une bouffée d'air, une grande bouffée d'air. Les tas de feuilles mortes ne risquaient plus rien. Nous sommes entrés dans la voiture comme des âmes en peine. Le retour s'est fait dans un silence étouffant. J'avais l'impression que personne n'osait parler. Je me demandais si mes parents avaient remarqué que je n'avais pas pleuré et ce qu'ils avaient bien pu en penser. Je me suis promis que l'on ne lirait jamais mon nom dans un cimetière, que je n'aurais pas de tombe parce que tout cela c'était trop triste. Le soir, en m'endormant, je comprenais un peu mieux la tristesse de maman. Quant à la mienne, je ne la montrais pas et elle n'allait pas s'arranger. Je pensais que ce n'était pas demain que j'allais rire. Si je pouvais penser, Christine est ma petite sœur, je n'ai jamais pu me dire que j'étais son grand frère. J'avais trop l'impression d'avoir failli. J'avais beau me demander ce que j'aurais pu faire pour que ma petite sœur reste en vie, je ne trouvais jamais aucune réponse et j'en étais très malheureux. Dans ce récit qui nous est raconté par l'auteur, François-Xavier Pertuis, c'est lui-même qui se retourne sur son enfance douloureuse. L'adulte se souvient que jeune enfant endeuillé, il n'avait pas les clés pour lui permettre de comprendre ce qui lui arrivait. L'adulte qu'il était devenu, pourrait-il un jour faire cohabiter une vie pleine et un deuil infaisable? La suite de notre lecture du livre « Blessures » de Jean-François-Xavier Pertuis aux éditions L'Harmattan nous le dira bientôt. Amis auditeurs, n'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.
En streaming ou en podcast, toutes nos émissions sur radioalliance+.fr.